Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport en direct du Mans.
Jean-Christophe Drouet.
11h04, de retour dans les grandes gueules du sport, votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi avec ce matin en direct du Mans, les GG, les motards, Pascal Duprat, Jérôme Pinault, Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux. Vous êtes déjà monté d'ailleurs sur une moto ?
Moi j'ai déjà fait un tour, oui, avec RMC. J'étais même avec Vincent, pas sur la moto, hein, mais à côté. Il n'a pas réussi à monter dessus.
C'est-à-dire à côté ? En sidecar ou...
Non, on est sur deux motos. Sur deux motos différentes, mais Vincent...
Elle était à l'arrière avec ses cheveux roux qui flottaient dans le vent, c'est ça. C'était magnifique.
Non, on a fait sur le circuit, c'est Paul Ricard ? C'était Paul Ricard ? Non, à Nevers.
Ok.
À Nevers.
C'est Paul Ricard, c'est celui de Christophe.
Oui, c'est dans le sud. Non, c'est à Nevers et effectivement, on nous a fait tester des motos. Je ne sais pas si je me suis arrêté qu'à 170 pulsations minute. Hein. À mon avis, j'ai dépassé les 200.
Hein. Ouais, déjà fait de la moto, Jérôme ?
Derrière Marco Motto, ouais, sur un contre-la-montre.
Ah, ouais. Ah bah oui, évidemment.
Tour de France. Et je suivais Jérôme Coppel d'ailleurs.
Ah ouais.
Ouais. C'est impressionnant.
Hein.
Jérôme Coppel est impressionnant. Marco Motto,
un peu moins. Oui, un petit peu moins.
Non, je suis pas très rassuré.
Ah bah si,
je
monte derrière. Tu as déjà suivi un motard, Lance Armstrong.
Ah oui, alors là oui. J'ai fait du derrière moto. Oui, ça a duré très longtemps. Hein. Puis les échappements, tu sais, du Armstrong.
Oui, t'étais obligé de rétrograder. Enfin, c'est classique.
J'ai peur que ça pète.
Christophe.
Moi, j'ai fait 5 Tours de France sur la moto RMC. Et je peux te dire que dans les descentes de col, t'as aussi le cœur qui monte.
D'accord, mais c'est pas toi qui conduisais.
Ah non, non,
tu conduis pas. Moi non plus, je conduisais pas. J'ai juste enfoncé mes ongles dans le pilote qui était devant. Et je pense
que dans l'ordre.
Il porte toujours les stigmates.
Il en toujours.
Ouais, il nous a appelé les furieux. Oui, donc Christophe, la moto, en passager.
Non, j'ai une 125.
Ah oui, ok.
Pas de 175 km/h, comme vient de me dire Paul, là, sur les. Il y a le Grand Prix Moto 3 en ce moment, c'est des 125, et ça monte à 275 km/h dans la ligne droite, quand même. Donc, je sais pas où ils ont trouvé ces 125-là, mais ça doit pas être.
C'est pas
celle
bien
du conforme.
Pascal ?
Écoute, très peu pour moi. Bien sûr, en tant que passager, oui, mais jamais. Jamais monté sur une moto, j'ai un peu la trouille, voilà.
Ok.
Je peux le reconnaître.
Bah tu vas voir là quand ça va partir à partir de 14h. On vous en reparlera évidemment dans cette émission. Ce sera commenté en direct sur RMC. Toujours avec donc Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Jérôme Pinault, Sarah Pitkowski. On va parler de Kylian Mbappé. Que serait cette émission sans notre kiki national Kylian Mbappé? Le classico cet après-midi à 16h15. Joue-t-il sa saison, notre Kylian Mbappé? 11h30, la punchline des GG. Hugo Mola, vous l'entendrez, qui a encore les nerfs, qui a encore un petit peu les boules après la défaite en demi-finale de Champions Cup face à l'UBB. Et puis 11h45, on parlera également de Fiona, de Manon Fiorot, pardonnez-moi, de Manon Fiorot évidemment, qui malheureusement n'a pas gagné, n'a pas réussi à glaner cette ceinture. Ça aurait été une première dans l'histoire du MMA français. Allez, tout de suite, Kylian Mbappé.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Salut à tous, c'est Kylian.
Les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable.
C'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'années où j'ai eu la chance et l'immense honneur de faire partie du plus grand club de France.
De toute façon, tu ne sers à rien, tu t'es blessé, tu ne sers à rien sur les épreuves.
Ce que pensent les gens, c'est le cadet de mes soucis.
Ce soir, je vote pour toi. Je pense qu'on n'a pas la même vision de l'aventure, les mêmes valeurs et le même respect de l'humain.
Moi, tu ne me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je ne suis pas là, mais quand je suis là, tu ne me parles jamais d'âge. Tu ne me parles que de football et de niveau.
Je vote parce que je n'aime pas les gens hypocrites, d'autant plus que je pense qu'elle n'est pas trop apte à faire les épreuves avec moi.
Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé.
Mais quand est-ce qu'il va arrêter? Il est plus capable de mettre deux pieds devant l'autre.
Je vote pour toi ce soir parce que je pense que ton caractère est un petit peu trop imposant ne te permet pas de t'insérer correctement au sein de l'équipe.
Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres.
C'est moche la séquence de Mbappé qui a pas fait le bon choix offensivement.
Je sens que ce soir, quoi qu'il arrive, on n'arrivera pas à vous réconcilier. Non.
Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin.
Le Real Madrid est éliminé au stade des quarts de finale de Ligue des Champions.
À la fin, il n'en restera qu'un.
Le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des Champions 2025.
Sachez que vous resterez pour mon cœur pour la vie. Ici c'est Paris et au revoir.
On embrasse évidemment Denis Brognard et nos amis de TF1 avec cette production spéciale Koh-Lanta. Mbappé est peut-être en train de faire une JPP, c'est vrai, quitter son club de cœur pour viser plus grand, plus haut et enfin toucher le Graal, mais voir ses anciens coéquipiers triompher la saison suivante sans lui. Alors cet après-midi, c'est la dernière chance de Kylian Mbappé de soulever un trophée majeur cette saison avec le Real Madrid. Pour cela, les Madrilènes doivent absolument s'imposer à Barcelone dans le Classico, eux qui comptent 4 points de retard sur le rival à 4 journées de la fin. La musique qui fout les jetons et cette question, mais GG, Mbappé joue-t-il sa saison aujourd'hui? Oui ou non? Jérôme Pinault?
Non.
Pascal Duprat?
Non.
Sarah Pitkowski?
Je crois que j'ai répondu oui.
C'est oui. Ouais. Christophe Cessieux?
Non.
C'est non. Alors avant de débattre, on va retrouver notre envoyé spécial à Madrid, c'est Edgar Grolot. Bonjour Edgar.
Salut JC, salut tout le monde.
Pression maximale sur le Real et sur Mbappé face au Barça.
Oui, la donne est simple. Si le Real ne gagne pas aujourd'hui, Kylian Mbappé est quasiment assuré de terminer sa première saison sans titre majeur. Pour l'instant, Kylian Mbappé au Real, c'est 3 classicos, 3 défaites, 12 buts du Barça, 4 pour le Real. Et la réalité, c'est qu'en Espagne, la vraie star du classico de ce dimanche, c'est Lamine Yamal. Mais que Kylian Mbappé a tout pour lui voler la vedette aujourd'hui. S'il marque un doublé cet après-midi, il battrait le record historique de buts pour une première saison au Real Madrid. Un record qui tient depuis plus de 30 ans. Il passerait aussi potentiellement devant Robert Lewandowski au classement des buteurs de la Liga. Cela étant dit, ce qui est vraiment attendu à Madrid, maintenant, c'est pas les stats, c'est un Kylian Mbappé qui fait gagner son équipe. Il a marqué en Supercoupe d'Espagne, mais le Real a perdu. Il a marqué en finale de Coupe du Roi, mais le Real a perdu. Le Real a recruté Kylian Mbappé pour être le leader de cette équipe. Soit il fait gagner le Real aujourd'hui, soit il devra attendre la saison prochaine pour montrer qu'il est capable de faire gagner de très très grands matchs au Madrid.
Merci beaucoup Edgar Grolot, tu restes avec nous évidemment pour ce débat. Vous voulez participer, supporter madrilène, supporter du Barça, supporter français tout court, et nous parler de Kylian Mbappé. Joue-t-il sa saison aujourd'hui? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Pourquoi non, Jérôme Pinault?
Non, parce que sa saison, elle est de toute façon pas réussie, parce que ce soir, victoire ou pas, déjà le championnat n'est pas terminé, que c'est un garçon qui est parti à Madrid pour gagner des titres et des titres majeurs. La Liga en est un, mais il y a aussi la Champions League. Il a pas été décisif dans les matchs importants. Alors il est dans une adaptation, pas parce que ce soir il fait un bon match que ça va changer sa saison. Et puis,
mais il peut y avoir un autre relief quand même à sa saison. S'il met un double, imagine, il met un doublé, il fait gagner son équipe.
C'est exactement ça.
Même s'il fait un grand match ce soir, sur l'ensemble de la saison, elle n'est pas réussie. On ne peut pas dire qu'elle soit réussie. Il y a autre chose qui est important, c'est que cet homme-là, ce garçon-là, avec la mentalité qu'il a, est parti en Espagne et était au départ l'attraction de ce championnat. Il devait faire ce que les autres n'avaient encore pas fait jusqu'ici. Il y a un phénomène qui est arrivé dans la Liga, qui a éclos cette année, dont tout le monde parle, il s'appelle Lamine Yamal. Il s'appelle pas Kylian Mbappé. Et pour ça,
c'est donc pour ça
qu'il joue sa saison.
Mais vous avez répondu non, les garçons.
Mais non, il répond. Ouais. Il joue pas sa saison parce que sa saison,
si,
elle n'est pas là.
Parce que sa saison est foutue. Pardon. Okay.
Sarah et après Pascal.
Pourquoi je pense que c'est quand même un oui? Parce que dans les matchs importants, et notamment face au Barça, il a pas du tout été décisif jusqu'à maintenant. Tu viens de le dire, Jérôme, c'est Lamine Yamal qui est aujourd'hui fait la une, même si c'est pas un grand buteur, il est juste un passeur exceptionnel. Et s'il veut sauver un petit peu sa saison, c'est éventuellement d'avoir le record du meilleur buteur de Liga et de passer devant Lewandowski. J'ai envie de dire, c'est terrible de dire ça, c'est les petites miettes qu'il pourrait éventuellement récupérer.
Des miettes, 33 miettes dans la saison, pour sa première saison Real, c'est de belles miettes. Hein.
Oui, mais
33 buts.
Mais parce que tu mets la saison de Kylian Mbappé en perspective, mais si on se focalise sur Kylian Mbappé, oui, on avait envie et on était certain de pouvoir attendre mieux. Dans sa globalité, ouais, oui, c'est une bonne saison d'adaptation.
Je suis d'un tout autre avis que toi, Sarah. Tu sais que je t'apprécie beaucoup. Mais en fait, j'aurais voulu à ce moment-là
que
la question soit posée en tant que, comme telle. Est-ce que le Real joue sa saison aujourd'hui?
Oui.
Parce que si on veut bien faire la distinction, Mbappé joue-t-il sa saison aujourd'hui? C'est bien de Mbappé qu'il faut parler et le défaire un temps soit peu du collectif, parce que le foot, mais c'est du collectif.
Mais s'il y en a bien qui est pas Mbappé, collectif, c'est Mbappé.
Mbappé, pour sa première saison en Ligue 1, ouais, il marque malgré tout 33 buts. Ça,
pas dans les matchs importants.
Mais 33 buts quand même.
T'as raison.
Ok, si on veut faire une comparaison, Vinicius n'en marque que 18.
Ouais, bah alors, voilà. Mais la question, quand Mbappé signe au Real, on se dit, il y en a un qui va pas jouer à son poste.
Laissons-moi terminer, chère Sarah.
Oui.
Je dois également dire une chose, c'est qu'Mbappé est arrivé au Real Madrid, et pour ma part, je pense qu'il est meilleur footballeur qu'il ne l'était quand il est arrivé. Pourquoi ? Parce qu'il joue un poste qui n'est pas le sien, mm-hmm, il joue avant-centre. Aujourd'hui,
ça demande,
il est meilleur dos au but qu'il ne l'était quand il jouait, mm-hmm, au PSG. Et surtout, il est dans une meilleure compréhension du jeu et des appels, comment dire, conjugués avec ses partenaires. Même si le Real n'obtient pas les résultats escomptés. Pourquoi le Real n'obtient pas ses résultats escomptés ? Entre autres, parce que cette équipe est complètement déséquilibrée. Mm. Okay, avec une défense qui est moyenne. Et surtout, là, on pourrait dire que Mbappé n'a pas progressé, avec des attaquants qui défendent trop peu pour exister dans le football moderne. Cela dit, Mbappé, pour sa première saison, c'est une saison non pas modeste, mais c'est une saison réussie. Alors, faut pas faire l'analogie avec Paris. Paris qui obtient, comment dire, l'accession à la finale de la Champions League, et Mbappé qui, alors que le Real gagnait tout, Mbappé qui, malheureusement, cette année, s'ils ne font pas un résultat aujourd'hui, eh bien, vont être chou blanc.
C'est pas que de la faute. Pascal, il est allé à Madrid, pourquoi?
Pour gagner des titres.
Oui. Donc, pour l'instant, c'est chou blanc. Pour éventuellement être un postulant au Ballon d'Or. Est-ce que aujourd'hui, avec ses 33 buts, les postulants au Ballon d'Or?
Eh ben, je pense qu'aujourd'hui, il est mieux armé pour, dans les années à venir, obtenir le Ballon d'Or.
Alors, tu me parles.
Donc, en fait, tu signes au Real pour être sur un tremplin, en fait. Tu signes au Real, mais c'est juste un tremplin.
C'est pas un tremplin, c'est pour être meilleur footballeur.
Non, mais la question,
pour faire un meilleur footballeur.
Non, Pascal, on te parle de sa saison actuelle.
Mais qui te parle de 10 ans?
Mais c'est toi qui me dis dans 2 ou dans 3 ans.
Cette année, Mbappé s'est filmé pour ce qui est du Ballon d'Or. Mais à la limite, on s'en fout du Ballon d'Or. Parce que des titres avec le Real, ils vont gagner.
Tu crois qu'il s'en fout?
Croyez-moi.
Tu crois que lui, il prend son temps? S'il y a bien une chose qu'Mbappé ne supporte pas, c'est de prendre son temps.
Moi, je réponds simplement. Vous savez, je suis quelqu'un d'extrêmement discipliné.
T'as refait la question.
Parmi les indisciplinés. Ok, moi, je réponds à une question qui m'est posée.
Non, tu viens de refaire la question.
Par deux garçons qui sont un peu tordus. Tout le monde doit reconnaître.
Mais justement, il faut voir au-delà de la question. Moi, j'applaudis Pascal parce que c'était... Il faut voir au-delà de la question. C'est effectivement pour te provoquer. Tu rentres dedans, en fait.
Je ne me sens pas provoqué. Je pense que vous êtes. Je reprends le mot que Denis a employé toute la matinée hier. Oui. C'est indécent.
De quoi?
Ce que vous faites. Vous posez des questions sur Mbappé, sur
quel numéro d'acteur? Quel numéro d'acteur? Christophe, c'est vrai que cette semaine, on a beaucoup parlé de Kylian Mbappé, mais pas ricoché par rapport, et tu l'as rappelé,
mais
Pascal,
à
ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain.
Mais on en parle pour se moquer quelque part. Tout le monde est en train de se dire, oh là là, mais quelle erreur il a fait de partir de Paris. Regarde l'année où il part, Paris est en finale de la Ligue des Champions, alors que lui, il n'est même pas champion d'Espagne, il est éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions. Tout le monde, en fait, surtout les supporters du Paris Saint-Germain, se moquent de son choix.
Et toi aussi, Christophe.
Mais tu sais quoi, je m'en fous, en fait. Pour moi, Mbappé est vraiment passé au troisième plan. Je ne vais même pas regarder le Classico aujourd'hui. M'en fous. Moi, je regarderai Mbappé quand il sera en équipe de France. Mais aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, je préfère voir Dembélé, je préfère voir les stars françaises qui jouent et qui font triompher. Je m'en fiche du Real Madrid qui joue là-bas. C'est très bien s'il réussit à faire une grande saison, s'il postule pour le Ballon d'Or, on fera sonner une Marseillaise. C'est très bien, mais je préfère qu'il soit performant en équipe de France. Aujourd'hui, c'est devenu le cadet de mes soucis. Alors, je sais que ça frustre un peu Jean-Christophe, qui adorait faire quand même un débat hebdomadaire sur Mbappé. Là, il a réussi à trouver...
Il a trouvé l'espace.
Là. Il a réussi à nous faire un débat.
On est passé un débat par mois.
J'ai progressé quand même. Moi, je trouve que ça faisait longtemps qu'on
n'avait pas.
Mais aujourd'hui, je ne sais pas si ça passionne encore.
De toute façon, si aujourd'hui, s'il marche avec le Real. C'est le classico aujourd'hui en France, avec, à mon avis, le parcours du Paris Saint-Germain aussi. Ce qui n'est pas aussi un classico, c'est que nous, on n'en a plus. Si le PSG n'avait pas eu ce parcours-là, peut-être qu'un match comme ça serait un peu plus regardé avec Mbappé. Et la deuxième chose, c'est que tu fais l'affiche aujourd'hui de ce match. la première tête d'affiche que tu mets, c'est Yamal. Oui, c'est pas Mbappé.
Mais bien sûr.
Alors, et en plus, tout à l'heure, tu me parles de stats, Pascal. Et là, je suis vraiment très déçu parce que toi, t'es quand même dans l'émotion et dans le collectif. Tu m'as sorti des stats. Des stats, d'accord. Mais ça fait au moins, ça fait 4 ans que le Real de Madrid n'a pas fait une saison sans titre. Il arrive, il n'y a pas de titre.
Ça ne peut pas être du fait d'Mbappé.
Mais et il, sort, Jérôme, il sort d'une équipe qui avait du mal. Ça va bien, il arrive dans une autre, ça ne va plus.
S'il te plaît,
non, mais les coïncidences sont frappantes. Tu étais en train de parler de la défense du Real. Ah, là,
vous,
du Real.
Non, là, vous
là, acharnez des choses.
Non,
en
mais fait. Est-ce que le choix de recruter Mbappé...
C'est bien français, ça, tient.
Non, mais est-ce que le choix de
recruter... Tout ce qu'on a aimé, on le brûle. C'est bien français, ça, voilà.
Est-ce que le choix de recruter Mbappé au Real a fait qu'ils ne se sont pas concentrés ni sur le milieu ni sur la défense? T'es en train de dire qu'il y a des grosses déficiences du côté du Real. Mais donc ils ont fait un choix qui n'était pas super judicieux au Real.
C'est pas Mbappé défend pas.
Ah bah non, mais ça, on
c'est pas sa faute. On est
bien d'accord. C'est bien ça. C'est bien ça.
Non, moi je veux simplement par rapport à la question qui nous est posée. Je me répète, Mbappé fait une saison.
Est-ce qu'il joue ça
plus qu'honorable, que je ne l'attendais pas à faire cette saison-là au Real en jouant au poste qui est le sien, un poste nouveau, je le répète, avant-centre.
Ouais, mais en fait, on se pose la question parce qu'en face, on a le PSG qui est en finale de Ligue des Champions. Si le PSG avait perdu en demi. On aurait dit que la saison d'intronisation d'Mbappé, elle était pas si mal.
Le timing et le parallèle
parce que l'histoire, elle est pas très sympa pour Mbappé.
En revanche, si la question
racontée comme vous la racontez, c'est la raconter comme des salopards en fait.
la question de salopards quand même.
Mais en revanche, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que Mbappé n'a pas un peu en travers de la gorge?
Bien sûr.
Enfin, comment?
Comment il vit ce moment?
Exactement.
Et comment JPP a vécu le fait que Marseille soit sacré champion d'Europe?
Il voulait partir loin. Il voulait partir loin pour gagner la Ligue des Champions.
Il est parti loin, mais le PSG remporte la Ligue des Champions.
Oui, quand même.
Votre regard de sportif, d'après vous, il est comment? Et d'après vous, il est comment, Kylian Mbappé? Est-ce qu'il est un peu...
Il va dire qu'il s'en fiche, c'est son... Enfin,
est-ce qu'il est un peu frustré, tout ça? Non, mais on peut toujours se poser la question. Il y a beaucoup de légendes du club.
Il y a un litige avec le PSG, non?
Il y a beaucoup de légendes du club, du Paris Saint-Germain, qui ont adressé un message. Alors, tu le rappelles, c'est vrai qu'il y a un litige, mais ils ont pas mal adressé des messages. Il y a eu Marco Verratti, il y a eu Thiago Silva, et puis j'en passe et d'autres.
Flaco était dans la tribune, il est parti.
Si le Paris Saint-Germain gagne, il va les féliciter.
Sur Instagram.
Comment ?
Kylian Mbappé a liké les posts des joueurs du Paris Saint-Germain sur Instagram. Je veux dire, c'est pas un message, mais il a quand même liké les posts de ses amis Ousmane Dembélé, par exemple.
Oui. D'accord. Je pense qu'il a beaucoup de copains dans l'équipe.
Il a des potes dans
l'équipe. Mais ça n'empêche pas d'être content pour des copains. Mais au fond, comme tu me fais signe, Pascal, au fond de ses tripes, il a les boules. Il faut pas nous la raconter autrement. Il est parti pour un tout autre projet. Ça n'a pas marché cette année. Si la question était, est-ce qu'il va gagner plus de titres avec le Real que le PSG va en gagner, on peut supposer que oui, parce que c'est quand même un bon choix sur le long terme. Et évidemment qu'il va finir par
gagner. Raisonnable.
Mais sur cette année, tu m'enlèveras pas l'idée. Est-ce que qui s'est loupé et qui s'imaginait pas se louper à ce point?
Est-ce que vous alors s'il était resté au PSG, est-ce que le PSG,
non,
selon vous,
la réponse
aurait atteint la finale de la Ligue?
Mais non, mais il le dit, Luis Enrique.
Je pose la question à Pascal en tant que technicien du foot.
Il n'aurait pas pu travailler avec Luis Enrique.
Je pense que s'il avait été cette saison au Paris Saint-Germain, il serait plié comme tous ses camarades et il aurait fait corps et équipe.
Il aurait.
Et ça aurait été une plus-value pour le PSG aussi.
D'accord.
Mais c'est pas la question.
Non mais c'est la question posée par Christophe Soucieux.
Est-ce qu'ils auraient pu aller en finale de Ligue des Champions avec Mbappé
en mettant son football sur le terrain et en mettant
en côté ennuyé Mbappé pour le PSG.
Ça voilà. C'est sûr d'abord.
Ok. Il y a Greg qui nous appelle au 32-16. Il veut participer à ce débat. Salut Greg.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Merci d'être avec nous, Greg. On est toujours en direct du Mans. Je ne sais pas de quel endroit tu es en direct, toi, mon cher Greg.
De la Forêt des Landes.
De la Forêt des Landes, magnifique endroit. Greg, est-ce que Mbappé joue sa saison aujourd'hui?
Alors, je pense qu'il faut diviser le cas personnel à Mbappé puis le côté collectif. Et je pense que sur le côté personnel, comme a dit très brillamment Monsieur Pascal Duprat, il a réussi sa saison. Il a mieux fait en une saison que n'a fait Ronaldo quand il est arrivé, etc. Ou Benzema ou d'autres grands joueurs. Mais après, sur le point collectif, oui, il joue sa saison. Et je pense que si il marque ce soir, ce ne sera pas l'objectif. Ça sera de marquer et de gagner. Parce que marquer dans un grand match pour perdre 4-2, ça ne sert pas à grand-chose. Mais peut-être que s'il marque pour gagner, oui, ça changera sa saison sur le plan par rapport au Real Madrid, mais pas sur le plan personnel. Parce que on peut dire aussi que Sarah a dit il n'a pas marqué des trucs décisifs, mais la semaine dernière, il gagne 3-2 le Real avec quand même un doublé de Mbappé qui fait gagner l'équipe, qui fait qu'aujourd'hui il est encore en jeu pour le FC Barcelone.
Non, mais c'était contre qui?
Oui, mais il a marqué quand même, ils ont gagné.
Oui, d'accord, mais contre le Celta Vigo.
Oui, c'est ça. Oui, mais s'il ne marque pas, il ne gagne pas.
Au moins,
ça permet d'être dans la course.
De rester en vie et d'être dans la course. Et c'est vrai qu'on l'attend aussi, un vrai match référence sur un match.
On ne peut pas laisser dire ça. Quand l'année dernière, il joue au Paris Saint-Germain, qui marquait contre Strasbourg, on disait, oh, c'est bien, mais c'est que Strasbourg. Là, cette année, comme il n'a rien gagné, on va lui dire, oh, t'es un super joueur parce que t'as gagné contre le Celta Vigo. Non. Mbappé, c'est la Champions League, c'est pas la Liga.
La deuxième personne autour de cette table qui a de mauvaise
foi. Alors ce soir, Barcelone, d'accord.
Mais j'en compte deux déjà.
Merci beaucoup, Greg, d'avoir été avec nous au 32-16. Il y a Edgar Grollo qui est toujours avec nous en direct d'Espagne avant ce classico, je rappelle, ce soir, enfin cet après-midi plutôt, à 16h15, Barça Real, 4 points de retard pour les madrilènes, donc il faut absolument s'imposer à 4 journées de la fin. Et on a encore parlé d'arbitrage, je crois, du côté de Madrid, mon cher Edgar.
Oui, avec la classique Real Madrid TV qui a sorti une vidéo sur monsieur Alejandro Hernández, qui est l'arbitre de cette rencontre, qu'ils accusent d'être un fan de longue date du FC Barcelone. On rappelle évidemment que lors de la dernière finale de Coupe du Roi, la veille du match, l'arbitre avait fondu en larmes en conférence de presse en parlant justement des vidéos de Real Madrid TV, en disant que son fils se faisait insulter à l'école à cause de ça. C'est un vrai sujet. Le Barça s'est aussi plaint de l'arbitrage, a dit que leur élite l'élimination en Ligue des Champions était due à l'arbitrage, donc évidemment ça va être un sujet très touchy, très sensible en Espagne, et c'est évidemment toujours l'un des acteurs les plus importants du match sur chaque classico, c'est l'arbitre de la rencontre, et tous les talk-shows espagnols parlent de lui depuis des jours et des jours.
Merci beaucoup, Edgar Grollo. Ça vous fait réagir, ça, encore le Real TV sur
déplorable
comme ça.
Ça c'est scandaleux.
Tant le FC Barcelone que le Real Madrid ne montrent pas l'exemple, en tout cas en Espagne. Ils sont toujours en train de critiquer les arbitres.
À cette semaine, le Barça a été outré après l'arbitrage face à l'Inter Milan. Ouais,
tout le temps. Franchement, c'est fatigant. Voilà. Bon, il y a Marseille aussi en France.
Merci beaucoup, Edgar Grollo, d'avoir été avec nous. On te retrouve tout à l'heure, donc c'est 16h15, le Classico. Un point avec Eric Salio, qui est à Rome. Vous le savez, il est à Rome pour le Masters 1000, le retour de Sinner hier. Et aujourd'hui, c'est un Français là qui est actuellement sur les courses, c'est Arthur Fils. Ça se passe pas très bien pour notre Français, Eric Salio.
Oui, salut, je suis effectivement dans les tribunes du Grand Stand. Début cauchemardesque pour Arthur Fils. Un quart d'heure de jeu et 4 jeux à 1 pour un très très bon City Pass. Il faut absolument que Arthur sorte mettre le radio réveil, parce que là il est pas dedans. Donc 4-1 City Pass, et les tribunes qui commencent à se remplir. C'est le début de journée, les Romains ont fait la grâce patinée. 4-1 City Pass face à Arthur Fils.
Merci beaucoup, Eric Salio. À tout à l'heure, évidemment, on suit cette rencontre de notre Français sur RMC dans les grandes gueules du sport. On revient dans quelques instants pour vous parler de Top 14. Ça a été l'un des temps forts hier, la victoire écrasante du Stade Toulousain. Est-ce que cette défaite face à l'UBB, ça va rester dans les têtes ou pas, ou c'est déjà oublié? À tout de suite sur RMC, on se pose la question.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport en direct du Mans.
Mais il va s'y faire parce qu'il est intelligent, parce qu'il a du talent, parce qu'il a un super entraîneur et parce qu'il est dans une très 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 grande équipe.
Jean-Christophe Drouet.
Ah, c'était le show Pascal Duprat il y a quelques minutes. Pascal Duprat, Jérôme Pinault, Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux, toujours avec nous dans les grandes gueules du sport. Il est 11h31, vous écoutez RMC en direct du Mans, bien sûr pour le Grand Prix MotoGP, ce Grand Prix que nous attendons avec impatience à 14h. Fabio Quartararo partira en pole position. Vous allez suivre tout ça sur notre antenne, évidemment, mais tout de suite on parle de Top 14. Une semaine après leur élimination en Champions Cup, c'était en demi-finale face à l'UBB, le Stade Toulousain s'est rassuré hier au Stade Vélodrome en s'imposant largement, même en étriant, en concassant le RCT, 16-50, les Toulonnais qui ont fini par payer leur indiscipline avec notamment un carton rouge. Alors à 3 journées de la fin du championnat, du Top 14 de cette saison régulière, le Stade Toulousain est officiellement qualifié pour les demi-finales du Top 14. Mais écoutez, Hugo Mola, hier en conférence de presse, on sent que il pense encore à la semaine dernière.
RMC, la punchline GG.
Le manager, il est resté scotché un peu à dimanche dernier. Forcément, on a encore quelques démons à sortir sur les semaines qui vont venir, parce que on n'a pas le droit de présenter un visage comme ça, même si on a fait bonne figure la semaine dernière. On avait besoin de remettre les choses dans l'ordre, d'être un peu audacieux, chose que l'on n'a pas été assez la semaine dernière. Ça ne fait que conforter ma colère. On va continuer à se remettre en question, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une réaction épidermique puis plus rien derrière. Il faut qu'il y ait plus jusqu'à la fin. Peu importe qu'on soit déjà en demi, ce qu'on veut, c'est finir premier.
Et voilà, il est remonté, Hugo Mola, au micro de nos diffuseurs et du diffuseur Canal+. La défaite de la semaine dernière en demi-finale, est-ce qu'elle peut vraiment rester dans les têtes? Oui ou non? Jérôme Pinault?
Non.
Sarah Pitkowski?
Moi, je suis sur le oui.
C'est oui. Pascal Duprat?
Ce qu'il y a de sûr, c'est que dans la tête d'Hugo, oui, hein.
Oui.
Hugo Mola.
Christophe Cessieux.
Oui, mais de manière positive, je pense.
Ah, de manière positive. Ouais. Bah, tu commences, Christophe. Oui. Pourquoi?
Parce que la réaction du manager, elle est à l'image de ce qu'est Hugo Mola, c'est-à-dire un mec qui lâche rien. Le Stade Toulousain n'a pas l'habitude de perdre, surtout ce genre de match, et ça provoque une réaction épidermique de la part d'Hugo. Il est encore en colère de ce qui s'est passé la semaine dernière, et je suis sûr que durant toute la semaine, il a dû harceler ses joueurs en disant c'est pas possible d'avoir produit un truc comme ça. Et la réaction, on l'a vu hier, un Stade Toulousain de nouveau étincelant. Et je voulais faire le parallèle finalement entre Toulon et Toulouse. Toulon qui avait perdu en quart de finale face à Toulouse, pas pour grand chose, mais qui depuis, s'est complètement liquéfié. Il y a eu une défaite contre Vannes, là il y a eu cette défaite énorme contre Toulouse. Donc on sent que les Toulonnais ont vraiment morflé après cette défaite. Et ils n'ont pas réussi à rebondir, à la différence de Toulouse. Toulouse qui a perdu la semaine dernière, effectivement, qui a été bouffé par l'UBB, mais tu sens que le moral de champion, le mental, fait qu'aujourd'hui, ils sont repartis vers les sommets. Et je suis sûr que c'est une défaite qui va leur faire du bien, parce que à force de gagner, toujours gagner, encore gagner, au bout d'un moment, t'as plus de challenge. Là, le challenge, c'est qu'ils se sont fait taper par Bordeaux, et ils vont avoir qu'une envie, c'est taper Bordeaux en finale du championnat.
Ok, donc c'est positif ce qui s'est passé, si on comprend bien évidemment ce que tu nous dis. Sarah Pitkowski.
Oui, je pense, et je suis sur la même lignée que toi, Christophe, je pense que ils sont un peu meurtris. Ils sont un peu meurtris et c'est l'orgueil d'un champion en fait. C'est l'orgueil et j'aurais bien aimé voir la semaine au Stade Toulousain et les paroles d'Hugo Mola qui a dû remonter les joueurs mais comme des pendules. Ils ont encore 3 matchs et même s'ils sont qualifiés et ils sont qualifiés pour la phase finale, je pense qu'ils ont envie de montrer et de mettre des raclées sur les 3 prochains matchs quoi. On sent que c'est l'orgueil qui a pris le dessus.
Mais vous avez entendu Hugo Mola, il dit qu'il ne faut pas avoir de réaction épidermique et juste
pas,
et juste un
one shot.
Moi je veux pas juste la réaction, je veux que ça continue comme ça.
C'est pour ça que je pense qu'il va aller au bout de la finale avec le couteau entre les dents en disant ça on la digère pas quoi.
C'est du management et c'est très bien et évidemment Hugo Mola n'est pas celui qu'il est. C'est évidemment un immense manager et moi j'ai répondu non pour ça parce que c'est un outil de management mais ça ne restera pas dans la tête des joueurs. La preuve hier. Pour moi, c'est hier la preuve que c'est dans la défaite qu'on apprend. Il y a pas de bonne défaite. En revanche, si une défaite n'est pas assimilée, analysée et qu'on s'en sert pas pour mieux rebondir, elle sert à rien. Et là, elle a servi. Et là, tu vois qu'hier, ils ont mis en plus la manière et dire voilà, c'est arrivé une fois. On reste Toulouse. C'est pas ça qui va changer les choses. On est à l'avant. Donc pour moi, cette défaite là, elle est. Préjudiciable évidemment pour la Coupe d'Europe, mais elle ne va pas rester dans la tête des garçons plus longtemps que ça, si ce n'est qu'ils l'ont bien analysé et qu'elle va leur servir.
On est tous d'accord.
Après,
en fait.
Je dis pas que Toulouse ne va plus perdre. Ils ont encore perdu Ntamack hier. Ouais. C'est compliqué. Ils perdent des grands joueurs petit à petit. J'en reviens à ma première phrase tout à l'heure sur le premier débat. On a beau dire, quand on perd les meilleurs joueurs, on est moins bon. Et ça, c'est une chose. Mais je pense que, en revanche, l'outil, et c'est là où moi j'ai beaucoup d'admiration pour Hugo Mola, c'est cette façon de manager. Il a les outils et il va chercher un outil chaque semaine avec une équipe qui domine. Parce que manager une équipe qui gagne tous les week-ends, c'est pas si simple.
Le Toulousain d'adoption.
Et pour un manager.
Je peux pas parler de ça, donc tu m'as coupé les
Pascal.
Là, en fait, tu voulais me dire ferme ta gueule. Quoi.
Non, Pascal, pour un manager.
Non, parce que quand je parle d'un manager, je te regarde.
Sur l'humain, un manager, une défaite ouais. Comme ça, c'est presque alors, du pain béni, quelque part, non?
Moi, je pense que Hugo Mola, oui, peut-être, Christophe, tu as raison. Mais moi, je pense plutôt. En fait, je voudrais revenir avant le match de l'UBB où déjà j'avais senti dans les confs de presse d'Hugo Mola une certaine, non pas crainte, parce qu'il ne craint pas, mais une inquiétude. Et puis là, sur cette conférence-là, je suis certain que cette conférence-là, il ne la donne pas si le score est plus étriqué ou si Toulon gagne contre Toulouse. Il revient pas sur le match de Bordeaux. pour moi, encore une fois, il va me fustiger, il va m'envoyer peut-être un texto, il va me défoncer, mais j'ai l'impression qu'Hugo Mola, il surjoue sur le coup. Mais par contre, il a des raisons de surjouer. Et la raison principale, de mon point de vue, c'est que les joueurs, ils zappent vite. Et que ce soit des rugbyman et des footballeurs aujourd'hui, après les défaites, tous, ils passent à autre chose.
Et trop vite, c'est ça.
Et trop vite. Et ceux qui sont en charge de leur remémorer, qu'attention, ouais,
exactement,
attention les enfants,
vous endormez pas,
l'équilibre il est fragile, on a pris une pipe contre Bordeaux, donc si vous voulez pas que ça renouvelle, ben, ils leur rebalancent. Comment ils leur rebalancent? Par l'intermédiaire de la presse, ou quand il les a en face d'eux. Voilà. Mais je suis d'accord avec Jérôme, ça veut pas dire que Toulouse va gagner jusqu'à la fin de la saison.
Tu l'as croisé, Hugo, quand tu étais à Toulouse?
Oui. Je l'ai croisé, encore une fois, au moment où moi, j'avais le vent en poupe, parce qu'ils étaient au fond du gouffre, puis je les avais maintenus. Et lui, il avait fini, je crois, 12e.
Ah oui, c'était...
Et Toulouse n'avait jamais fini 12e, et il était un peu fragilisé. Il avait des joueurs, comment dire, de vieille génération, des très bons, hein, mais qui commençaient à être sur le retour. Et il me disait déjà qu'il y avait des jeunes fabuleux. Et en fait, bravo, parce qu'il a fait un travail remarquable. Mais là, c'est la vigilance du manager qui m'interpelle. Mais j'aimerais savoir pourquoi il me semble si il me semble un peu comme inquiet, voilà.
Ouais, si en tout cas
c'est faux, hein,
ce qu'on peut détecter dans sa conf d'hier, c'est que en surjouant ça, en portant ce message là, tu sens qu'il a encore pas regagné de la sérénité comme il avait avant. C'est-à-dire que il sait, il passe.
Tu le dis toi-même, il perd ses meilleurs joueurs. Tu peux pas être serein. Ouais, voilà, enfin,
c'est cette raison-là. C'est mieux. Il masque cette raison-là.
Il prévient là, exactement.
Mais comme est-ce qu'Entamac va revenir? Le protocole de commotion, c'est combien de temps?
Alors les demi-finales.
Il sera de retour. Sera de retour.
Les
phase finale, oui. Non, là, il va. C'est quoi, 15 jours maximum? Mais ça dépend de la
suite du feuilleton du Stade Toulousain, bien entendu, comme le top 14, va être passionnante parce que malgré tout, c'est pas parce que j'en voulais en faire un sujet hier, peut-être que le Stade Toulousain, je veux pas leur porter la poisse, mais va ne rien gagner cette saison, peut-être.
Oui, et ce serait, quand on regarde la saison et même au début de saison et tout ce qu'on pu dire sur le Stade Toulousain, ce serait quand même une énorme surprise et on suivra ça tout au long de la saison. Il y a autre chose en top 14 qui est passionnant, malheureusement pour ces équipes-là.
La lutte pour le maintien. Incroyable journée hier.
Vannes qui perd d'un point face à La Rochelle.
Dernière seconde avec un drop. Le Stade français qui perd pareil face à Perpignan. Enfin, je veux dire, on a assisté hier après-midi, et ça va être comme ça encore la semaine prochaine, une journée de dingue. Le maintien, c'est
qu'est-ce que t'as pensé du multiplex de foot?
Alors, le multiplex foot, tiens, on aurait pu en faire un sujet. C'était une catastrophe. La réalisation du multiplex. Je veux dire, bon.
T'as préféré le multiplex rugby, voilà. Bon,
écoute, il y a quand même un savoir-faire.
Oui, mais il y avait aussi beaucoup plus de suspense en rugby. D'ailleurs, je voudrais juste vous faire écouter quelque chose.
Il y avait du suspense en foot pour la Ligue des Champions.
Il y a eu moins de spectacles. Je veux dire qu'il y a eu moins de spectacles.
Il y a eu moins de suspense jusqu'au bout, quoi.
Voilà.
Certains matchs étaient pliés plus tôt.
Je voudrais vous faire écouter Morgan Parra, parce que le Stade français donc a perdu sur la pelouse de l'USAP. Encore une défaite à domicile, à l'extérieur. Zéro victoire à l'extérieur pour le Stade français. Et du coup, le Stade français est avant-dernier de top 14. Morgan Parra.
Bien sûr, l'état d'esprit, ils vont rien lâcher. Ils l'ont dit, je pense que les joueurs sont là, sont présents. Bien sûr, on est déçus. On est très déçus. Parce que moi, je pense qu'on a tout fait pour faire une bonne semaine. On a fait un match correct. La base pour moi au rugby, c'est l'engagement. Je pense qu'aujourd'hui, l'engagement, on l'avait. On savait que ça allait être très dur. Mais on a répondu présent. Donc, on n'a rien gagné. On n'est pas sorti de cette zone. On est toujours dans le maintien absolu. Mais on va travailler pour bien réceptionner déjà... semaine prochaine, et après il y aura une semaine de repos et de retravail sur les deux derniers matchs.
Pour l'instant, le Stade français, Christophe Barragiste, rapidement, est-ce que tu imagines le Stade français en Pro D2 la saison prochaine? Tu arrives à l'intégrer?
Il faut arriver à l'intégrer, il faut que les joueurs arrivent à l'intégrer, parce que là c'est une catastrophe qui s'annonce pour le Stade français, d'autant que le propriétaire du club, monsieur Wild, en a marre de mettre chaque année 20 millions d'euros sur la table pour renflouer le club, et que je ne suis pas sûr qu'il continue son aventure dans le rugby français si le Stade français venait à descendre en Pro D2. On sait que Perpignan, Vannes, le projet est pérennisé, et que même s'ils descendent en Pro D2, ça continuera. Côté Stade français, c'est pas certain. C'est pas un club qui est fait pour jouer le maintien, et c'est pas un club qui est fait pour descendre en Pro D2. Ça fait 28 ans qu'ils sont en première division. Ce serait une catastrophe pour le rugby parisien et même pour le rugby français, parce que c'est une véritable marque, le Stade français, quand même.
Alors, le double événement aujourd'hui, c'est évidemment en direct du Mans, avec le Grand Prix du Mans, la pole position de Fabio Quartararo. C'est à suivre à 14h. L'autre événement dans cette émission, c'est que nous vous faisons gagner des places. Un magnifique cadeau pour la finale de la Champions Cup à Cardiff. On parlait de rugby, ça tombe bien, c'est le samedi 24 mai entre, non pas le Stade Toulousain, mais l'UBB évidemment, face à Northampton. Et on vous offrait l'expérience RMC. On va accueillir Marlène. Bonjour Marlène.
Oula. Bonjour.
Merci d'être avec nous Marlène. Marlène, pourquoi on vous appelle? Est-ce que vous le savez?
Eh oui, je sais, j'ai joué sur RMC.
Vous avez joué, vous êtes supportrice de l'UBB ou pas du tout?
Ah oui, à fond.
À fond, oui. Vous avez remporté l'expérience RMC, vos deux places pour UBB Northampton. Bravo Marlène.
Oh, génial. Merci.
On est très heureux pour vous. Alors, l'expérience RMC, c'est vol aller-retour, Paris-Bristol. Juste venir à Paris. Il y a les transferts inclus. Il y a l'hôtel avec les petits déjeuners. Et bien sûr, vos deux places pour assister à cette rencontre.
La place dans les pubs aussi, parce qu'à Cardiff, il faut aller dans les pubs. Hein. Ils sont quand même à 50 mètres du stade, Marlène. Hein. Il faut aller visiter quand même. Hein.
On te fait confiance. Ah ouais. Si vous voulez, Christophe, qui a un guide.
Oui, est-ce que vous avez déjà votre compagnon pour aller
Christophe, peut y aller. Hein.
Oui, je l'ai déjà. Et je pense que je vais faire un heureux aussi.
Il s'appelle comment?
Nicolas.
Nicolas, on embrasse Nicolas, Nicolas Maralène. Grâce à RMC, vous partez à Bristol pour la finale de la Champions Cup. Bravo à vous et merci d'avoir joué UBB Northampton. Ce sera évidemment à suivre sur RMC. Allez, il est 11h44, on se retrouve dans quelques instants pour la suite et fin des grandes gueules du sport avec un débat caché. Oui, nous sommes peut-être ici en direct du Mans, mais je vous ai préparé une surprise, mes GG, comme d'habitude. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Tiens, juste vous donner une information. Arthur Fils a perdu le premier set. Mais ça, de toute façon, ça sentait un peu chocolat déjà dès le début du match. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport en direct du Mans.
Jean-Christophe Drouet.
11h47 de retour dans les grandes gueules du sport. On est ensemble jusqu'à midi. À partir de midi, les paris RMC autour du Classico. Barça, Real, on vous donnera toutes les meilleures cotes évidemment. Toujours avec Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Jérôme Pinault, Pascal Duprat. Et ce moment que vous attendez tous, c'est évidemment le débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant elles doivent débattre sur l'instinct, sur la sensation, sur le sentiment, avec le cœur, pas avec l'ordinateur. Larry Merrich, votre débat caché, votre guet-apens du jour, c'est ça.
Et 14 à Roland-Garros en 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022.
La grandeur de Roland-Garros, le cérémonial. Eh bien, sachez que la Fédération Française de Tennis a annoncé cette semaine qu'il sera possible de jouer gratuitement sur les courts annexes de Roland-Garros cet été. Le stade sera ouvert au grand public sur deux sessions, du 14 juin au 2 juillet et du 18 au 29 août. Voici ce que dit notamment ce communiqué. Certains spectateurs auront même le privilège d'échanger des balles avec des joueurs et des joueuses professionnelles sur le court Suzanne Lenglen. Notre débat, votre débat aujourd'hui. Faut-il sacraliser nos sites historiques? Faut-il sacraliser nos sites historiques, oui ou non? Jérôme Pinault.
Non.
Pascal Duprat.
Non.
Sarah Pitkowski.
Oh, que oui.
Oh que oui, ok.
Il neige de jouer à Roland-Garros, il y a quelqu'un qui doit l'avoir quand même.
Christophe Cessieux.
Non. Non.
Sarah, tu commences parce que je sais que tu étais à fond sur
moi,
ce débat.
Ouais, moi, j'ai eu ce débat déjà dans la voiture, donc il est chaud là.
Au pire, on va diffuser ce que vous êtes dit pendant la voiture.
On a enregistré.
Vas-y, Sarah, pourquoi oui?
En fait, c'est un peu particulier, mais je trouve que de jouer sur les terrains de Roland-Garros, ça reste quelque chose d'exceptionnel. Déjà, ce qui est assez exceptionnel, c'est que tous les titres de champion de France, de toutes les catégories, se jouent à Roland-Garros. Et tu récompenses un joueur de tennis qui joue ses qualifications dans sa ligue, dans son club, et qui vient jouer la finale et qui se fait remettre la coupe de champion de France de sa catégorie. Mais pardon.
Déjà l'occasion unique de voir un Français gagner à Roland-Garros au championnat de France.
Il y en a plusieurs, tu vois, parce qu'il y a toutes les catégories. Mais de voir quelqu'un qui est, qui a une licence de tennis et qui, par l'implication, peut aller jouer sur le terrain à Roland-Garros, ça me crispe. Oh, mais ouais, tu sais, j'étais contre. Je suis contradictoire. J'étais contre le marathon pour tous. Je vous l'ai dit, les Jeux Olympiques, c'est les Jeux Olympiques. Et pourtant, j'ai fait le 10 km des Jeux. J'ai participé. Mais
voilà, rendons populaire.
Je trouve qu'il y a un moment, le haut niveau reste le haut niveau. La performance, je trouve qu'on est en train de casser un peu trop les barrières.
Le sport de haut niveau a besoin du public, a besoin du soutien.
Donc il faut aller les accrocher. Mais chacun son terrain de jeu.
Mais alors,
si
un passionné de tennis a la chance de pouvoir fouler un court, ne serait-ce que deux minutes, tu te rends compte, un gamin, prenons l'exemple d'un enfant. Sarah, les enfants, ça te sensibilise. Un enfant qui va sur les terrains de Roland-Garros, tu te rends compte, le souvenir qu'il crée.
Le souvenir, c'est quand il s'assoit dans les tribunes et qu'il voit un grand match de tennis et qu'il se dit le lendemain, j'ai envie de faire pareil dans mon club et de jouer tous les jours.
Sarah, ce que tu dis s'entend.
J'ai eu le privilège de jouer sur le central de Roland-Garros. Championnat de France des journalistes, premier tour, je me suis pris une rouste, mais quel bonheur de se retrouver là-dedans. Tu regardes les tribunes, c'est immense, tu regardes tout en haut.
Le
seul problème, c'est que t'as pas de ramasseur de balles, et dès que t'envoies tes balles au fin fond des
pour aller les chercher, c'est un problème de niveau.
Pour aller les chercher.
Non mais,
juste
pour aller dans le sens de...
C'est génial, mais c'est un moment magique.
Juste pour aller dans le sens de Sarah.
Ben oui, et pas pour toi. Donc le pauvre peuple n'a pas le droit d'aller là. C'est réservé à l'élite, quoi. Hein, aux gens qui ont eu le bonheur de naître.
Non mais je descends pas au Stade de France pour aller taper dans trois ballons.
C'est ça, Sarah, quoi. Hein, c'est ça. Non mais franchement.
Pour aller dans le sens de Sarah, il y a quelques domaines réservés où je suis assez d'accord. Roland Garros, j'ai pas cette fibre autant que toi sur le tennis, mais vous savez que j'aime le golf. Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs.
Non,
jamais.
D'accord. C'est juste pour vérifier. Oui, mais le golf national ne rentre pas dans le temple. Moi, Augusta.
Et t'es pas allé
j'ai pas envie que le grand public aille jouer Augusta.
Il y joue en Écosse, là.
Tu fais pas le hall course.
Ouais.
À Saint-Andrews.
Bah, t'y allais?
Oui, bah, tu peux pas jouer. Non, j'ai pas joué sur le hall course. Si tu peux y jouer, mais il y a une loterie.
Là, tu c'est foulé. Très compliqué. Là, tu foulé.
Oui, mais
au départ. Eh bien alors.
Mais je l'ai foulé, je l'ai pas joué.
Tu peux le fouler. Tu peux le fouler. T'as des visites du stade de Roland-Garros et on se met trois pas sur le
cœur de l'événement.
Alors, donc, ça veut dire que les gens n'ont pas le droit, par exemple, d'escalader
l'Alpe d'Huez, le Tourmalet, quoi.
Ta froideur me consterne.
Dans ton esprit, c'est pareil. C'est un lieu mythique du vélo.
Je suis consciente d'une forme de contradiction. Aujourd'hui, on casse les barrières, en fait. On essaie de faire passer le spectateur au cœur de l'événement de la haute performance.
Tu me le disais toi-même, Sarah.
Et idéologiquement parlant, ça me gêne.
Jérôme Pinault.
Tu le disais toi-même, à Wimbledon, il y a un club et les gens jouent
T'es adhérent à Wimbledon depuis des lustres et avant que t'arrives à être adhérent, je peux te dire que tu peux.
C'est une question d'oseille, tu peux jouer quand même.
Question d'argent.
Et le mec qui va jouer au golf.
Il joue pas sur le central.
Mais quand bien même, si tu veux, aujourd'hui, ça doit appartenir aux gens qui aiment et qui portent le sport. Pourquoi on gagne de l'argent? Pourquoi les champions sont de plus en plus riches? Pourquoi les événements sont de plus en plus populaires? Parce que il y a du public. Parce que les gens adhèrent ça. Et moi, je trouve que pour faire adhérer, et moi, c'est mon principe, et c'est parce que c'est mon sport, pour faire adhérer à mon sport encore plus à mes partenaires et aux gens qui vont me supporter, c'est de les emmener sur la route pour leur faire vivre de le plus près l'aventure.
Principe quand t'as ton équipe.
De toute façon, il y aura toujours une limite. Je vais passer pour un mec à le boulard, mais la différence entre nous, les sportifs de haut niveau, et les autres, c'est le niveau, la capacité à être à haut niveau. Et ça, tu l'achètes pas. Par contre, leur faire vivre la même chose dans les mêmes endroits, ça ne peut être que bénéfique pour
le business.
Vous évitez
le monoxyde de carbone pour les...
On évite.
Déjà sacralisé le dopage, vous n'avez pas tout sacralisé
Non mais on a des petites choses comme ça qu'on aimerait qu'on nous laisse quand même, tu vois. Ouais.
Je voudrais aller voir Eric Salio qui est avec nous en direct de Rome.
Il
n'y
a pas de dopage dans le tennis, on le rappelle.
Il n'y a que des contaminations.
Avoir son avis. Juste vous préciser quand même que ici au Mans, par exemple, le samedi, eh bien tous ceux qui s'adonnent à la moto peuvent aller découvrir la piste et rouler sur cette piste. C'est ouvert pendant quelques minutes. Eric Salio, est-ce que ça te choque aussi comme Sarah?
Moi, je trouve que c'est bien d'ouvrir les cours à De Roland, mais je trouve qu'il faudrait sacraliser juste le central. Central, on n'y touche pas. Un peu comme
ah, le central,
comme
on n'y touche pas.
Comme, okay. On n'y touche pas parce que déjà, c'est embêtant quand le joueur d'aller ramasser les balles, ça prend un temps fou. Là, je pense au confort de l'amateur. Non, je pense que le central, c'est mythique, on n'y touche pas. Mais que ce soit les cours annexes, oui, sachez qu'à Melbourne Park, vous pouvez louer des cours au lendemain de l'Open d'Australie, à l'US Open aussi, c'est tout à fait public. Donc pourquoi pas Roland-Garros? Et puis c'est vrai qu'il y a, il y a un plaisir fou. Moi aussi, comme Christophe, j'avais joué sur le Champ des journalistes, je venais de ma Normandie, il m'a mis sur le 2. J'ai passé mon temps à regarder le cours, puis j'ai pris 2 et 2 contre un mec qui était moins bon que moi. Mais à la rigueur, je m'en foutais, j'avais perdu. Mais j'étais, ouais, j'étais saisi par la, la beauté du cours. Donc non, ça ne me choque pas. Et puis c'est vrai que si on peut jouer avec un pro, je sais que Florent Serra a été contacté, si on peut faire une heure avec Florent Serra sur le cours 18, bah, c'est un souvenir extraordinaire que vous gardez pendant des années. Non,
et vous parliez des gamins, idée, moi j'ai souvenir, c'est vrai que par exemple, j'ai plein de paradoxes, parce qu'Augusta, j'ai pas envie que ce soit joué par tout le monde, mais j'ai joué au Parc des Princes petit, et c'est vrai que tu en gardes un...
bien sûr, bien sûr.
Des images de dingue, j'en pense encore.
Un passionné pour un passionné de sport, c'est des souvenirs à vie, quoi. Et c'est bien aussi de
d'ailleurs, si vous voulez voir un beau match, je joue le 3 juin à la Beaujoire contre le Variété Club de France, si vous voulez vous déplacer.
Ah oui, mais toi, maintenant que t'es dans l'équipe de Zidane, ça y est.
Ah non, ça y est.
Non, il est plus là.
Ah non, mais là, il sera pas là, mais bon,
okay,
il y en aura d'autres.
Tu le remplaces. Tu lui as signé longtemps. Un autographe, Zizou,
non? Il m'a demandé, oui, j'ai dit, pas tout de suite, on attend. Entre légendes, tu sais, on se parle.
Eric Salio, juste en est où pour Arthur Fils?
C'est compliqué pour Arthur Fils, il a perdu le premier set, 6 jeux à 2. Il y a 2-1 au deuxième pour Stefano Tsitsipas, mais j'ai l'impression qu'il rentre petit à petit dans le combat. Donc on peut espérer une remontada.
Bon, il va falloir se dépêcher en tout cas. Merci beaucoup Eric Salio d'avoir été avec nous. Merci beaucoup les GG, Pascal Dupras, Sarah Pitkowski, Jérôme Pinault, Christophe Cessieux d'avoir été avec moi ce matin en direct du Mans pour le Grand Prix Moto GP. Je vous rappelle l'information, Fabio Quartararo partira en pole position, ce sera à 14h et ce sera évidemment à suivre, commenté sur RMC. Il est 11h57, merci à tous de votre fidélité. On se retrouve dans quelques instants pour les Paris RMC autour d'un certain classico. C'est à 16h15, bel après-midi sur RMC. 16h15 entre le Barça et le Real. À tout de suite.